Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. Le pape s'est adressé lundi soir à une centaine de personnes invitées à voir le film documentaire François dans la trium de la salle Paul VI. Le secrétariat général du synode des évêques a rendu public ce mardi les documents préparatoires et les vade-mecum qui accompagneront le prochain synode sur la synodalité. On en parle tout à l'heure en actualité de l'église avant de faire le point sur la situation politique en Guinée-Conakry après les coup d'état perpétré contre le président Alpha Condé. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous ces bonnes conditions de coûte de ce programme que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Le pape s'est adressé lundi soir à une centaine de personnes invitées à voir le film documentaire François dans la trium de la salle Paul VI. La projection se déroulait dans une atmosphère de forte émotion pour les personnes présentes qui ont incarné les tragédies de plus de 30 peuples victimes des guerres, d'urgences environnementales et des persécutions. Une tension qui a fondu à la fin du film lorsque le pape François a personnellement embrassé les réfugiés dans la trium de la salle Paul VI. Le pape François, le patriarche œcuménique Bartholomé et l'archevêque Justin Welby ont, dans une déclaration commune, exhorté chacun à jouer son rôle en choisissant la vie pour l'avenir de la planète. Les dirigeants chrétiens ont appelé les gens à prier en cette saison chrétienne de la création pour les dirigeants mondiaux avant la COP26 en novembre. La déclaration se lit comme suit. Nous appelons chacun, quelle que soit sa croyance ou sa vision du monde, à s'efforcer d'écouter le cri de la terre et des pauvres, à examiner son comportement et à s'engager à faire de sacrifices significatifs pour le bien de la terre que Dieu nous a donné. Les trois dirigeants chrétiens ont également dénoncé l'injustice et l'inégalité. Le secrétariat général du synode des évêques a rendu public ce mardi le document préparatoire et les vade-mecum qui accompagneront le prochain synode sur la synodalité. Ce processus sera ouvert les 9 et 10 octobre à Rome et le 17 octobre dans les églises particulières et se conclura par l'Assemblée générale au Vatican en 2023. Ce chemin synodal s'articulera sous la forme d'un dialogue avec l'Église, la société et les autres confessions chrétiennes. Les précisions de Cyprien Viette.
À travers ces deux documents, le secrétariat du synode souligne la nécessité de vivre un processus ecclésial participatif et inclusif qui offre à chaque personne, en particulier à celles qui sont en marge, la possibilité de s'exprimer et d'être entendue et de reconnaître et d'apprécier la variété des charismes et d'examiner comment la responsabilité et le pouvoir sont vécus dans l'Église. Il s'agit aussi de régénérer les relations avec les représentants d'autres confessions, les organisations de la société civile et les mouvements populaires. Des mesures qui s'inscrivent dans un contexte historique marqué par la tragédie du Covid et par la crise interne à l'Église, confrontée à un manque de foi interne, à la corruption et aux abus. Mais c'est précisément dans ces sillons creusés par la souffrance que fleurissent les voies nouvelles pour refonder le chemin de la vie chrétienne et ecclésiale. Le document préparatoire invite tout d'abord chaque évêque à relire les expériences de son propre diocèse, en tenant compte des relations internes entre les fidèles, le clergé, les paroisses, mais aussi entre les évêques, avec les différentes formes de vie religieuse et consacrée, avec les associations, les mouvements et les institutions telles que les écoles, les hôpitaux, les universités, les organisations caritative. Il convient également d'envisager des relations et des initiatives communes avec d'autres religions et avec le monde de la politique, de la culture, des finances, du travail, des syndicats et des minorités. Le fruit des réflexions sera condensé en une dizaine de pages. L'objectif n'est pas de produire des documents, est-il affirmé, mais de faire naître des rêves, des prophéties et des espoirs.
Et je vous rappelle que ce synode sur la synodalité sera ouvert solennellement les 9 et 10 octobre à Rome et le 17 octobre dans les églises particulières et s'achèvera par l'Assemblée des évêques au Vatican en 2023. En République centrafricaine, un comité d'organisation du futur dialogue républicain chargé de ramener la paix dans le pays a tout récemment été installé par le président Faustin Archange Touadéra. De passage dans nos studios, le cardinal Dieudonné Nzapalainga insiste sur la nécessité d'un dialogue informel. On l'écoute.
J'ai toujours demandé à ce qu'il y ait le dialogue. Tant qu'on n'engage pas le dialogue, on avance avec des présupposés. Certes, il faut ces lieux de dialogue formel, Mais n'oublions pas, il y a ce que moi j'appelle le dialogue informel. Ça veut dire dans le quotidien, nous devons garder. Et vous avez là les trois quarts des choses qui se déroulent. Ces gens qui ont pris des armes, même s'ils sont pas là, les gens qui sont dans les villages, doivent continuer à garder le contact parce que quoi qu'on le fasse, ces gens sont là. Faites le déni de réalité en disant, ils ne sont pas là. Eh bien, il y a des morts, il y a des véhicules qui sont brûlés, il y a des gens qui sont tués. Jusqu'à quand allons-nous faire le déni de réalité? Et moi, je pense que c'est notre devoir, moi en tant que religieux, de tendre la main et de dire, frères, sœurs, vous êtes dans le mauvais chemin. Mais il faut que je m'approche de la personne pour le lui dire. Et d'abord l'écouter. Peut-être que la personne a quelque chose à me dire. D'abord, commencez par l'écouter et avant de porter le jugement.
Le cardinal Dieudonné Nzapalainga sur la nécessité d'un dialogue informel. Lundi, la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso a rendu une visite de courtoisie à la conférence épiscopale Burkina-Niger. Complément d'information avec notre correspondant à Ouagadougou.
Sous la direction de son président, M. Élisée Ouédraogo, la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu une visite de courtoisie à la conférence épiscopale Burkina-Niger ce lundi 6 septembre 2021. Les 15 membres de la CENI ont été reçus par le conseil permanent épiscopal au siège de la conférence. Le président de la CENI situe l'objet de leur visite.
Nous avons voulu être là ce matin pour présenter l'ensemble des commissaires à la conférence épiscopale et également dans un second temps, surtout, recueillir les attentes quant à la manière dont on devrait exercer notre mandat au sein de la CENI.
Quelques-unes de ces attentes avec Mgr Laurent Dabiré, évêque de Dori et président de la conférence épiscopale Burkina-Niger.
Les attentes envers la CENI que nous avons sont celles de tout le peuple burkinabé, que nous ayons une institution forte, une institution unie, des commissaires qui vivent la collaboration, la communication, l'unité, la cohésion entre eux, le professionnalisme, afin que leur travail puisse être bien fait et profiter à l'ensemble de la nation. Nous attendons d'eux qu'ils soient des hommes sûrs de notre pays qui rassurent l'ensemble des citoyens.
Le président Élisée et son équipe assurent avoir pris bonne note de toutes ces attentes de la conférence des évêques et se permettent de compter sur leurs conseils et leurs appuis en termes d'interpellation et de prière pour mener à bonne fin cette mission délicate au bénéfice de tout le peuple burkinabé. Paul Dawagadou pour Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, le mois de la Bible s'est ouvert dans tous les diocèses le dimanche 5 septembre. Notre correspondant local nous explique.
Le mois de la Bible s'est ouvert dans tous les diocèses le dimanche 5 septembre. Le mois se vivra en l'honneur de Saint Jérôme, fêté le 30 septembre comme patron de l'apostolat biblique. Le service de l'apostolat biblique de la Commission épiscopale de la doctrine de la foi de la Conférence épiscopale nationale du Congo a proposé de vivre le mois de la Bible de l'année 2021 sous le thème de la relation entre l'homme et la terre. L'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale a adopté au mois de juin le document de travail intitulé « L'homme et la terre, de la création à l'histoire d'Israël ». Le responsable national de l'apostolat biblique, membre de la Société du Verbe divin, le père Léopold Ditona, a expliqué qu'il s'agit de réfléchir sur la responsabilité dans la gestion des ressources de la terre en vue d'un monde nouveau. Dans la province de l'Équateur, l'évêque de Bassankoussou, Mgr Joseph Mokobé, a ouvert le mois de la Bible au cours de la messe, présidée le dimanche 5 septembre dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Le diacre Jean-Baptiste Lokouli a prononcé l'homélie, insistant sur l'importance de la Bible dans la vie du chrétien. La Bible doit nous convertir, la parole de Dieu est la lumière pour une vie nouvelle, a-t-il dit. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, a rendu jeudi 2 septembre 2021 une visite au père Norbert Eric à Bécon. L'objectif, féliciter le nouveau secrétaire exécutif national de la Commission épiscopale Justice, Paix et Environnement pour sa nomination, mais également travailler au renforcement des liens de fraternité et d'amitié entre les deux communautés sœurs pour une meilleure cohésion sociale dans le pays.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'actualité sociopolitique en Afrique reste dominée par la situation en Guinée-Conakry, où les chefs des putschistes guinéens a tenté lundi de rassurer les partenaires et investisseurs étrangers ainsi que ses concitoyens en déclarant que le nouveau maître de Conakry respecterait les contrats économiques et miniers et se garderait de toute chasse aux sorcières. Des précisions d'Hélène Détombe.
Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire français, désormais à la tête des forces spéciales, a promis l'installation d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition politique. Il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, a-t-il déclaré devant les anciens ministres et présidents des grandes institutions. Ils avaient été convoqués ce lundi au Palais du Peuple, le siège du Parlement, sous peine d'être considérés en état de rébellion. Lors de cette première apparition, au lendemain du coup d'État, le chef des putschistes, ovationné à son arrivée par des centaines de Guinéens, a assuré les partenaires du pays qu'il respecterait toutes ses obligations liées aux conventions minières. Les frontières maritimes restent ouvertes pour les activités d'exportation et le couvre-feu est levé dans les zones minières, a annoncé Mamadi Doumbouya, soulignant sa volonté de favoriser les investissements étrangers. Un ton qui se voulait rassurant afin d'éviter une fuite des investisseurs du pays, l'un des premiers producteurs mondiaux de bauxite. Mais pour l'heure, à Conakry, le palais présidentiel est toujours bouclé par des hommes armés et des barrages de soldats contrôlent les accès au centre-ville.
La police ougandaise interrogeait mardi deux éminents parlementaires de l'opposition accusés d'orchestrer une vague de meurtres à la machette qui a fait des dizaines de morts dans le sud du pays. Le porte-parole de la police ougandaise Fred Enanga a déclaré que 12 personnes avaient déjà été inculpées de meurtres et de terrorisme et 11 autres ont été emprisonnées. Selon lui, certains suspects ont déclaré à la police que les députés Mohamed Seguirinha et Alan Sewa Wanyana avait organisé ces attaques pour semer la peur dans la population et amener les gens à haïr le gouvernement. Égypte commence mardi à juger Oussam Bagat, directeur d'une ONG locale de droits humains, pour un tweet critiquant les autorités électorales selon son avocate. Fondateur de l'EIPR et journaliste, il est accusé de diffamation envers les autorités électorales pour avoir évoqué de possibles fraudes lors des législatives de 2020 sur ses comptes personnels Facebook et Twitter, a indiqué son avocate Oda Nasrallah. À la machette ou par balle, au moins 30 villageois ont été tués ce week-end en Ituri, province de l'Est de la République démocratique du Congo, où sévit notamment le groupe armé ADF accusé par la population de ce nouveau massacre. Ituri, comme la province voisine du Nord Kivu, est sous état de siège depuis début mai, mesure exceptionnelle censée mettre un terme aux activités des multiples groupes armés. Reportage de notre correspondant à Goma.
Selon un communiqué de l'armée congolaise dans le territoire du Rumu, en province de l'Ituri, les forces armées d'RDC continuent à s'affronter aux miliciens Kodeko aux EDF en profondeur. L'armée congolaise annonce qu'il y a eu 3 morts et 4 blessés du côté de l'ennemi. Pendant ces temps, l'armée appelle la population au calme car elle est en train de maîtriser la situation, confirme les porte-parole de l'armée dans la région. Il faut signaler que le week-end dernier, 33 corps de civils ont été découverts à Luna et Samboko dans le même territoire de l'Ituri, à la frontière avec celle du Nord Kivu et en province du Nord Kivu, dans les régions de Oika et Eringeti, plusieurs corps également ramassés ont été enterrés. C'est le même cas d'assassinat des EDF Nalu, reconnu comme étant un mouvement terroriste dans la région, intervient alors que les deux provinces touchées sont en état de siège et que certains hauts gradés de l'armée congolaise séjournent dans la région dans une mission de mutualisation des efforts entre les secteurs opérationnels du Nord Kivu et de l'Ituri. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans la région depuis plusieurs jours maintenant et les députés nationaux des deux provinces exigent au gouvernement congolais une évaluation générale de la situation dans ces deux provinces avant de proroger l'état de siège installé depuis le mois de mai et qui a vu toutes les autorités civiles céder leur poste aux autorités militaires. Demain, Augustin Monsengue, Radio Vatican.
La commission électorale sud-africaine a légèrement revu lundi le calendrier des élections locales test pour le parti historique au pouvoir, l'ANC, après le rejet par la justice d'une demande de report du scrutin en raison de la pandémie de COVID-19. Initialement prévu le 27 octobre, le vote sera organisé au plus tard le 1er novembre et les candidats qui avaient jusqu'au 23 août pour se déclarer bénéficient d'un délai supplémentaire. Ce dernier changement est largement perçu comme une bouée de sauvetage lancée au Congrès national africain ANC, englué dans les difficultés et dont des centaines de candidats ne sont toujours pas inscrits. Le groupe des ambassadeurs du G7 en Tunisie a appelé lundi à la nomination urgente d'un chef de gouvernement et à la reprise des activités du Parlement tunisien, suspendu depuis le 25 juillet par le président Kais Saied. Les ambassadeurs du G7 ont aussi souligné le besoin urgent de nommer un nouveau chef de gouvernement en remplacement de Hichem Mechichi, limogé le 25 juillet par M. Saied.
Radio Vatican, Français Afrique, Donatien Niembo.
L'armée nigériane, appuyée par des hélicoptères et avions de combat, mène une offensive contre des gangs dans le nord-ouest du Nigeria, où les réseaux mobiles ont été récemment coupés, ont indiqué lundi des sources sécuritaires et des habitants.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Place à présent à Marie-José Mondo Boabolo qui nous présente le magazine sur les développements.
Le magazine sur le développement se penche aujourd'hui sur l'engagement du pacte du G20 avec l'Afrique, notamment dans la lutte contre la COVID-19. Les participants à une réunion du pacte du G20 avec l'Afrique ont examiné la semaine dernière les progrès réalisés par le continent africain dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, réaffirmant leur engagement à soutenir le relèvement du continent par le développement du secteur privé et la production de vaccins. Nous nous réunissons à un moment charnière dans la relation entre l'Afrique et le reste du monde, a déclaré Mario Draghi, le premier ministre italien. Initiative du G20, le pacte avec l'Afrique a pour but de promouvoir les réformes macroéconomiques, commerciales et celles liées au financement afin d'attirer davantage d'investissements privés en Afrique, y compris dans les infrastructures. La conférence a réuni des chefs d'État, les 12 membres du pacte et des partenaires institutionnels dont la Banque africaine de développement et le Fonds monétaire international. Les discussions ont porté sur la stratégie pour attirer davantage d'investissements directs étrangers en Afrique et sur l'urgente nécessité de développer les capacités de production de vaccins sur le continent. Assurer le relèvement du continent après les impacts de COVID-19 est l'un des objectifs à court terme du pacte. L'inégalité d'accès aux vaccins est constamment revenue dans les discussions. Les chefs d'État ont fait état des réformes entreprises dans le cadre de l'initiative. Ils ont recommandé avec insistance une coopération internationale plus étroite afin de faire face aux changements climatiques, à la dette élevée et à la rareté des investissements étrangers. Pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, l'Afrique ne sera pas en mesure de se relever tant que les Africains ne seront pas vaccinés. Le président français Emmanuel Macron a affirmé l'engagement de la France à fournir à l'Afrique des doses de vaccins d'une valeur de 10 millions de dollars. Le président de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi Adesina, a annoncé que l'institution s'était engagée à investir 3 milliards de dollars pour soutenir la fabrication de vaccins à travers l'Afrique, tandis que le président de la Banque mondiale, David Malpass, a souligné que des programmes de financement des vaccins avaient été mis en place dans 54 pays, dont plus de la moitié se trouvent en Afrique. Les dirigeants africains sont parvenus à un consensus sur la nécessité d'une autosuffisance vaccinale comme solution à plus long terme. Selon le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, des enseignements auraient dû être tirés de l'épidémie d'Ebola. Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a attiré l'attention sur l'initiative visant à développer la technologie de l'ARN messager en Afrique dans différents centres régionaux. Le président Adesina a salué les progrès réalisés par les membres du pacte, nous avons constaté qu'une nette amélioration s'était produite dans les partenariats public-privé et dans les coûts et la facilité de mener des affaires, mais également en termes d'entreprises qui investissent dans de nombreux pays africains, a-t-il indiqué, soulignant les effets attendus de la zone de libre-échange africaine sur le continent. Les participants ont également relevé la hausse des niveaux d'endettement et les marges de manœuvre budgétaires limitées des pays en raison de la pandémie. Les réductions de liquidités nous ont frappé très fort, a noté le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.
Poursuivons notre programme avec la rubrique Écuménisme et dialogue interreligieux, Marie-Josée Wando Boisbolou.
Commençons notre rubrique sur l'écuménisme et le dialogue interreligieux par le Soudan du Sud, où les chefs religieux de l'État d'Équatoria occidentale ont lancé un appel à mettre un terme à la culture des meurtres. Nous sommes horrifiés d'apprendre que l'insécurité et les actes de terreur continuent à augmenter dans notre État. Nous sommes tous fatigués de cette situation. Nous continuons à vivre avec consternation le massacre en cours, la récupération des corps mutilés de nos fils et filles, enfants, personnes âgées, femmes et hommes, la dénonciation que les leaders adressent une fois de plus à l'ensemble du peuple de l'État d'Équatoria occidentale fait suite à l'appel à la paix lancé le 4 août dernier par le Conseil interconfessionnel et le Conseil interreligieux. Assez de meurtres, de violences. Affrontons par le dialogue ceux qui continuent à alimenter cette situation de souffrance dans le Grand Tomboura, indique leur message. Nous demandons instamment au gouvernement du Soudan du Sud à tous les niveaux de prendre des mesures draconiennes pour mettre fin à la violence atroce en cours qui cause la mort de tant d'innocents, insistent les dirigeants. Nous avions l'espoir d'une réconciliation après notre visite écuménique et solidaire dans le Grand Tomboura le mois dernier. Nous avons tous prié ensemble pour l'unité, l'amour, le pardon, la compréhension, le dialogue et le courage de cohabiter pacifiquement et de travailler ensemble. En tant que chefs religieux, nous demandons au gouvernement des pays et des États de faire ce qu'il faut, de protéger les civils et d'améliorer leurs conditions de vie. En conclusion, les chefs religieux appellent à la paix. Mettons un terme aux meurtres d'innocents et insistons également pour que les auteurs de ces brutalités soient traduits en justice. Au Togo, une nouvelle ressource pour les enfants intitulée « Parce que Dieu m'aime » permet de lutter contre les violences sexistes. Les éducateurs chrétiens et les autres responsables d'église au Togo tournent avec plaisir les pages de cette nouvelle ressource destinée aux enfants, un programme d'éducation publié par le Conseil œcuménique des églises. Rédigé en français et destiné à aider les enfants âgés de 7 à 12 ans à lutter contre les violences sexistes, le programme a été édité par Yvette Kellem et Blandine Akla. Bien que le programme ait été conçu principalement pour être utilisé par les églises et les groupes confessionnels en Afrique, il est également accessible et utile à d'autres populations francophones. Ce programme d'éducation chrétienne encourage les enfants, les adolescents et les jeunes à s'investir pleinement pour devenir très tôt des partisans de la non-violence. Conçu pour les animateurs d'études bibliques, les enseignants, les bénévoles au sein des paroisses et d'autres personnes travaillant auprès des enfants, le programme est un guide qui aide les églises à jouer leur rôle, celui de protéger tous les enfants, toutes les filles et toutes les femmes contre toutes les formes de violence sexiste. Le secrétaire général intérimaire du Conseil œcuménique des églises, le père Johan Sauka, s'est entretenu avec Mohamed bin Aboul Karim al-Issa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale basée à La Mecque, et Amir Javed Sheikh, responsable de la Foundation Dialogue for Peace basée en Norvège, le 31 août dernier. Une délégation restreinte de chaque organisation a débattu de divers sujets, des enjeux liés à la pandémie de COVID-19 à l'école d'été interreligieuse à Bossey, en passant par la nécessité de renforcer la coopération interreligieuse.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Au nom de tout le service français Afrique de Radio Vatican, Donatien Nyembo vous remercie pour votre écoute fidèle. Au revoir.
Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Comme un bon berger, il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis comblé, je veux le louer, je veux l'acclamer, partout annoncer qu'il est la vérité. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh 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 accueille-moi, oh quelle joie d'être toujours à toi.